France Inter. Le 7-9. Intervenez.
Au 01 45 24 7000 avec d'abord Anne-Marie qui nous appelle de Paris. Bonjour.
Bonjour, merci de prendre mon appel. Je suis une citoyenne lambda. J'entends depuis des mois et des mois ce qui se passe et particulièrement en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous citoyens lambda, à Paris ou ailleurs? Merci de répondre à cette question basique.
Merci Anne-Marie. Raphaël Pitti.
Écoutez, c'est la question que pose cette dame, c'est celle que j'entends tous les jours. Parce qu'il y a, dans notre pays en tous les cas, une vraie sensibilité par rapport à cette problématique. Elle existe depuis très longtemps. Le citoyen a le sentiment véritablement d'un abandon de cette population. Et il en est meurtri au même temps de voir qu'on ne fait rien. Il n'y a de la part de nos gouvernants, et même au niveau du monde entier, que des mots. C'est comme du vent dans l'air, au fond. Et cela ne se traduit jamais en actes. On condamne, mais il n'y a jamais d'actes derrière qui s'en suivent. Et donc, je peux comprendre combien c'est difficile. Et pour tous ceux qui entendent, il faut manifester une opinion publique. Nos gouvernants ne fonctionnent que sous la pression des opinions publiques. Mmh. Et il ne faut pas hésiter à descendre dans la rue maintenant pour dire ça suffit.
Vous étiez au Trocadéro il y a quelques jours.
Oui, et nous étions très peu nombreux.
Vous étiez très peu.
Et très peu nombreux. Oui. Et donc, il y a une nécessité.
Angela Merkel l'a fait remarquer elle-même la semaine dernière.
Et il y a une nécessité de descendre dans la rue. Il y a une nécessité de se mobiliser et de dire nous ne voulons plus cela, nous ne supportons plus ça, nous ne voulons plus de ce massacre de cette population qui n'a pas de raison qu'elle souffre comme ça, d'intérêts qui les dépassent largement. Qui nous dépasse largement.
Jean-Pierre Filu, Bachar al-Assad est un dictateur. Quant à Vladimir Poutine, il a souvent montré à quel point il était insensible aux pressions de l'opinion publique internationale, non ?
Oui et non. Vous savez, ce sont des gens qui aiment qu'on les aime. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont aussi généreux avec ceux qui les aiment. Généreux dans tous les sens du mot. Mais on voit aussi que, et c'est peut-être le plus inquiétant, c'est que Poutine préfère prendre ce qu'on pourrait lui donner. Qu'il n'a pas attendu que Trump prenne ses fonctions pour s'emparer d'une Alep que Trump, fort probablement, lui aurait laissé conquérir. Donc nous sommes d'ores et déjà, même à l'intérieur de ces monstres froids qui s'assoient sur tous les principes moraux et humanitaires, dans une situation de conflit qui ne va cesser de s'aggraver.
Daniel nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Nous vous
écoutons.
Bonjour
à tous. Jean-Pierre Filieu, dont j'ai suivi les enseignements, peut-il nous dire en quelques mots quels sont les arguments géostratégiques qui ont fait de l'Iran l'allié de ces deux dictateurs et de ce massacre?
Ça remonte, c'est au-delà des arguments. Hafez al-Assad, en 1979, donc le père de Bachar al-Assad, noue une alliance stratégique, qui est l'alliance la plus stable de la région, avec la République islamique d'Iran, à l'époque l'ayatollah Khomeini, aujourd'hui l'ayatollah Khamenei, et dans les deux cas, l'Union soviétique, puis la Russie, vont s'appuyer sur ce triangle pour maintenir dans un premier temps leur position au Moyen-Orient et revenir en force à partir des dernières années. Et on est pratiquement certain que l'actuelle offensive directe de la Russie en Syrie, à partir de septembre 2015, a été lancée en concertation avec l'Iran et surtout après deux visites à Moscou du chef des gardiens de la révolution d'Iran, où l'a sans doute vu Vladimir Poutine, et que donc on est dans un couple dynamique et où Assad n'est au fond que la partie rapportée de l'attelage.
Raphaël Pitti.
Oui, en rajoutant quand même aussi que les Alaouites sont une branche au même temps des chiites et que le meilleur soutien, bien entendu, de cette communauté alaouite a toujours été forcément l'Iran chiite et donc sur lequel elle s'appuie maintenant encore.
Un petit mot, Bernard Guetta.
Juste pour ajouter que derrière la guerre de Syrie, il y a évidemment, vous venez de le dire, docteur, il y a évidemment l'affrontement régional entre les deux religions de l'islam et leurs deux chefs de file, que sont l'Iran et l'Arabie saoudite. On est en plein dans cette problématique et c'est pour ça qu'il est complètement illusoire de penser que cette guerre de Syrie va se terminer. Elle va au contraire, si j'ose dire, parce qu'elle s'est jamais éteinte, mais se rallumer, s'amplifier, parce que les puissances chiites n'accepteront jamais leur défaite en Syrie.
Farid nous appelle de Metz. Bonjour Farid.
Bonjour, merci de prendre mon appel. Bonjour à tous. Merci Patrick Cohen pour la qualité de vos émissions.
Merci.
J'avais une question basique comme la première auditrice. En fait, pourquoi le Conseil de sécurité des Nations Unies a 5 membres permanents dont un peut mettre son veto, pour bloquer une décision et puis ça bloque tout. Mm. Et à quoi sert donc les autres pays si les 5 doivent mettre leur veto et bloquer tout? Et puis pourquoi on modifie pas cette organisation? Pourquoi on la monte pas et puis après
question de bon sens,
ma question,
oui.
ma question basique.
Mais oui, mais vous avez bien...
je suis français d'origine turque et quand je vois mon pays d'origine qui accueille autant de migrants et le président turc qu'on décrit autant accueille quand même 3 millions de réfugiés dans mon pays d'origine. Je trouve un peu cette désolation hypocrite, un peu ignoble de dire ben on peut rien faire, tout est bloqué, etc. C'est quand même inadmissible en un seul mot, quoi.
Merci Farid. Jean-Pierre Filu, il n'y a pas eu un seul veto lors du dernier passage devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y en a eu deux, hein, puisque la Chine a rejoint la Russie. On pensait que la Chine était en train d'évoluer un peu sur ces questions-là. Bah, pas du tout. C'est la même position que Poutine, c'est-à-dire le soutien au régime contre les peuples.
François Delattre, le formidable ambassadeur de France aux Nations Unies, a signé un texte dans lequel il feint de s'interroger haute voix sur Alep, tombeau de l'ONU. Mmh. Et je crois qu'on en est vraiment là. À cause du veto. Mais après tout, le veto, on connaissait quand les États-Unis opposaient systématiquement leur veto à toute résolution qui aurait pu gêner, a fortiori condamner Israël. Donc là, eh bien, Poutine, il ne fait avec la Syrie que ce que les États-Unis ont fait pendant des années et des années avec Israël. Ce qui est infiniment plus grave, c'est que l'ONU n'a même pas pu mener un minimum d'action humanitaire sur le terrain. Et que ça, c'est la Russie qui en est directement responsable. Le 19 septembre 2016, un convoi humanitaire de l'ONU a été bombardé par l'aviation de nuit. La seule force qui a des moyens de bombardement nocturne aérien, c'est la Russie. Mais Obama ne voulait pas d'une épreuve de force avec la Russie. Il aurait pu mettre l'épreuve sur la table et amener ainsi une condamnation. Et donc, une fois de plus, on a eu un crime sans criminel. Et comment voulez-vous que la légalité internationale ou le droit humanitaire ou la morale de guerre puisse être respectée quand un convoi de l'ONU est bombardé pendant 2 heures et que quand le soleil se lève, il n'y a pas de coupable.
Alors, on a au standard une série de questions politiques, parce que les auditeurs ont encore dans l'oreille les débats qui ont été ceux de la primaire de droite, avec la position singulière, pour utiliser un euphémisme, qui était celle de François Fillon. José, par exemple, de la Drôme, qui demande: que pensez-vous du soutien moral de François Fillon vis-à-vis de la politique de Poutine? Alors, je ne sais pas si on doit dire soutien moral à l'égard de la politique de Poutine. En tout cas, ce que disait François Fillon, c'est que Bachar al-Assad Assad pouvait être en quelque sorte une sorte d'allié objectif dans la lutte prioritaire à ses yeux contre Daesh et l'État islamique.
Et que la solution passerait forcément par la Russie. Et donc avec une sorte d'acceptation du rôle de la Russie.
Vous avez un avis aussi. Raphaël Pitti.
Sur le plan humain, c'est insupportable pour moi. Mes 17 voyages en Syrie montrent bien la souffrance du peuple syrien. Et de voir combien elle s'est accentuée depuis l'intervention russe sur le terrain, avec ses bombardements. Ce ne sont pas des accidents collatéraux. C'est véritablement ciblé. Les hôpitaux qui ont été détruits, les personnes, quand on voit ces enfants qui arrivent, ces familles qui sont détruites, c'est sous la volonté russe quand même que cela se fait, et sous l'égide des Russes que cela se fait. Ils auraient pu, pendant ce siège d'Alep, pendant 5 mois, les Russes auraient pu éventuellement aussi larguer de la nourriture vis-à-vis de la population qu'ils considèrent comme prise en otage des rebelles et qu'ils s'en servent comme bouclier, ce qui expliquerait pour eux éventuellement les pertes collatérales. Mais c'est faux. Au même temps, on voit bien qu'ils n'ont jamais largué de nourriture cette population, ni même permis l'entrée de médicaments à l'intérieur. Et donc, il y a un cynisme. On ne peut pas dire que moralement, D'accord. On peut s'appuyer sur Poutine, qui est d'un cynisme terrible, pour considérer que c'est lui qui serait le défenseur maintenant des valeurs occidentales.
Jean-Pierre Filu.
Moi, je réagirais sur François Fillon, mais aussi sur Jean-Luc Mélenchon, parce que leur aveuglement parallèle par rapport à Poutine est du même ordre et il est tout aussi insupportable. Faire disparaître les femmes et les hommes de Syrie pour pouvoir conserver son confort intellectuel de dire « Vive Poutine, vive Poutine, vive Poutine » sans jamais se poser la moindre question sur les horreurs que la politique russe est en train de perpétrer sur le terrain, bien je ne crois pas que ça vous qualifie pour les plus hautes fonctions dans la République française.
Jean-Pierre Filu, Raphaël Pitu, restez avec nous. On va accueillir dans un instant Augustin Trapenard et retrouver Sophia Ram.